la chair du peuple. Sur une chose essentielle, elles avaient été d'accord, la Crimée. En 2014, quand Poutine avait annexé la divine péninsule sans rencontrer de résistance, Elena et Svetlana avaient fait la fête. Après ce retour au port natal, comme on disait alors, les Russes étaient heureux, comme des garnements qui auraient shippé un playboy chez un marchand de journaux sans même avoir à se cacher. L'Ukraine n'avait rien vu venir, l'Occident encore moins, Svetlana et Elena non plus. Svetlana était abasourdie de joie. En réalité, avant 2014, comme l'écrasante majorité des Russes, Svetlana n'y pensait plus du tout, à la Crimée, sous son aspect de morceau de terre sacrée qu'il faudrait reprendre. Si elle regrettait amèrement l'implosion de l'URSS et détestait Gorbatchev et Eltsine, qui avaient rendu possible cette forfaiture, elle s'était fait une raison depuis longtemps. D'ailleurs, personne ne l'empêchait de s'y rendre en vacances, ce qu'elle avait fait plusieurs fois. Ce n'était pas loin de Nijni, et le coût du séjour restait modeste. Son bon plan, colouer à plusieurs une petite maison près d'Alushta. L'appartenance de la Crimée à l'Ukraine était un non-sujet. Elle était supposée acquise par la quasi-totalité de la classe politique russe, y compris par Poutine, qui s'était exprimé de manière parfaitement limpide sur la question. Seul Vladimir Jirinovski, le pénible clown de l'ultra-droite, osait parfois des grognements provoquants, comme pour mieux souligner la ligne modérée de son maître Poutine. Et Limonov, le toxique Nazbol, que le Kremlin fourrait régulièrement en prison à cause de son franc-parler nationaliste. Soudain, ce cadeau du ciel, la Crimée, brusquement, on s'est souvenu. Mais oui, on avait autrefois une Crimée, prunelle de nos yeux, moelle de nos os, et maintenant elle est à nous de nouveau. Ce rêve surprenant et merveilleux, une injustice a été réparée, me disaient à l'époque les Russes que je croisais, y compris souvent ceux de l'opposition. Leurs yeux brillaient, leur humeur étincelait, on venait de leur faire un shoot d'endorphine. Comme une cure de jouvence, comme une revanche sur toutes les frustrations personnelles que la vie leur a fait subir depuis 1991, la Crimée. Avant la Crimée, Svetlana avait un avis mitigé sur Poutine. Si elle appréciait la virilité affichée du personnage et la stabilité de granit que les forces de police faisaient régner en tapant sur les écervelés libérastes, elle lui reprochait ses connivences avec l'oligarchie. Elle avait du mal à fermer les yeux sur les fastes de l'élite, claquant des montagnes d'argent en Occident. Parfois, quand elle s'oubliait, elle se plaignait aussi de l'état pathétique des services publics et des routes, ainsi que de la minuscule retraite de sa mère. Avec la Crimée magique, du jour au lendemain, toutes ces broutilles passent aux oubliettes. La grandeur retrouvée de la Russie compense largement l'inconvénient d'habiter un pays mafieux et arriéré. Avec la Crimée en poche, elle a maintenant un but dans la vie. Une quête mystique même, récupérer d'autres bouts d'Ukraine. Elle se souvient soudain qu'elle a un quart de sang ukrainien. Elle a passé une partie de son enfance à Dnipro. L'Ukraine me manque tellement, cette chère Ukraine natale où j'ai vécu mon enfance. Ces Ukrainiens avec leur hospitalité et leur ruse naïve, la cerise que l'on cueille directement sur l'arbre et le mûrier. Avez-vous déjà mangé des mûres? Les blanches, les roses, les noires. Les chansons ukrainiennes et les fêtes autour d'une grande table, j'y pense souvent. La Crimée n'a fait qu'exciter son appétit. C'est maintenant le reste de l'Ukraine qu'il lui faut. Son doudou à elle, l'Ukraine. Ça tombe bien. Avec l'aide des Russes, le Donbass commence à pourrir, puis se fige dans les accords de Minsk. Les 8 années suivantes seront pour Svetlana une interminable attente. Pourquoi n'allons-nous pas plus loin? Il faut les mater, ces Ukrainiens. Ils ont déjà un genou à terre, c'est le moment de les écraser définitivement et de récupérer ce qui est à nous. Soutenons les séparatistes ouvertement. Faisons rouler nos chars vers Kiev. Sa démangeaison de conquête est inextinguible. Rétrospectivement, quand on sait comment s'est déroulée la désastreuse campagne militaire de 2022, elle n'avait pas tort de vouloir profiter immédiatement de l'avantage dynamique que les Russes avaient en 2014. Au passage, il y a de quoi rire. Une banale assistante d'école maternelle a été plus clairvoyante que Poutine et son essaim d'espion du FSB. En 2021, comme elle ne voit toujours rien venir, elle s'exaspère. Poutine, tu es censé être un commandeur. Tu es la caste des rois. Pourquoi te soumets-tu à ces boutiquiers crêpes ? Pourquoi échanges-tu la vie des Russes du Donbass contre la possibilité de faire du commerce avec l'Occident ? Ces populations avaient cru en toi en 2014. Ils pensaient que notre fameuse devise « les Russes n'abandonnent pas les leurs » n'était pas du chiquet. À chaque nouvelle escarmouche dans le Donbass que la propagande du Kremlin transforme en un bombardement des civils par les bandéristes et les nazis, la température de Svetlana monte d'un cran. On va accepter de se faire marcher sur la tronche encore longtemps ? On nous disait qu'il y avait des lignes rouges. Où sont-elles ? J'espère que le commandant suprême sait ce qu'il fait à attendre de la sorte. Crêpe. Je commence à douter. Pendant 8 longues années, elle s'est montée le bourrichon. Son agacement grandissait contre un pouvoir qui promettait beaucoup de choses grandioses, mais semblait ne jamais vouloir aller jusqu'au bout. Ainsi, en gâtant les Vatniki avec la divine surprise de la Crimée, Poutine s'était assuré une formidable poussée d'amour populaire qui, insidieusement, chez ses fans les plus absolus, était en train de se transformer en déception. C'est l'histoire du fiancé qui fait la surprise d'un magnifique diadème à sa promise, puis, année après année, noie le poisson en s'arrangeant pour repousser le mariage. Combien de temps avant que la frustration ne devienne aigreur, puis colère ?
À la même époque, à 1000 kilomètres à l'est de Svetlana, Elena suit un schéma de désenchantement comparable, provoqué cependant par des arguments contraires. Son désamour du pouvoir l'entraînera en zone interdite et aura des conséquences radicales sur sa vie. Pourtant, au moment de l'annexion de la Crimée, Elena est aussi estomaquée que Svetlana. Autour d'elle, à Perm, ses voisins, ses copines sont euphoriques. Dans son tramway, les usagers sont exaltés. De sinistres et hostiles, ils sont devenus joyeux et même parfois polis. Il y en a qui se mettent à chanter. Elena entre alors dans le tourbillon, davantage par plaisir de voir des gens heureux autour d'elle que par patriotisme. Elle veut en être. Cette femme extravertie éprouve une souffrance physique à rester seule. L'été de l'année 2014 se passe dans la même ambiance. Chaque soir, on porte des toasts à la nouvelle région, à nos troupes aéroportées et à Poutine, bien sûr, le réunificateur des terres russes. La maladie s'appelle le krimnachisme ou exaltation patriotique autour de la Crimée. En russe, Krim Nash, voulant dire « la Crimée est à nous ». Les premiers doutes surviennent quand, par curiosité, elle s'aventure sur un blog tenu par une habitante de Donetsk. Elle découvre alors comment cette ville, qui a accueilli la demi-finale de foot de l'Euro 2012, se gangrène sous la coupe de ses nouveaux maîtres hétéroclites, mélange de parrains, d'illuminés de la gâchette, de gradés du FSB. Elle voit comment l'abandon et le délabrement gagnent les infrastructures urbaines, dont le réseau de tramway. Elle s'y connaît. Elle se fait peur avec les têtes patibulaires des nouveaux héros séparatistes Arsène Pavlov, dit Motorola, épouvantail à la barbichette roux, pisseux et aux dents marron, Mikhaïl Tolstik, dit Givi, le sadique, qui se vante de faire manger leurs épaulettes aux prisonniers ukrainiens avant de les exécuter. Et Alexandre Zakharchenko, le boss de l'autoproclamée République populaire de Donetsk. Les trois se feront exploser dans des attentats jamais revendiqués, jamais élucidés, ressemblant à des règlements de compte entre mafieux. Elle commence alors à fréquenter d'autres blogs ukrainiens, ceux qui sont en russe, la seule langue qu'elle connaît. Ce n'est pas qu'Elena voudrait, dans une sorte de quête personnelle de la vérité, débusquer les faits escamotés par la propagande du Kremlin. Peu de Russes ont envie de prendre conscience qu'ils sont ipso facto complices des crimes de guerre en Syrie qu'on commet en leur nom, sous leur drapeau, avec leurs impôts et le sang de leurs concitoyens. Elena est comme les autres, elle ne juge pas les Russes et ne cherche pas les fautifs. Mais elle compatit, et c'est déjà beaucoup. Le moteur d'Elena est cet étrange besoin qu'elle a de se mettre dans la tête des gens qui l'entourent. Elle le fait en permanence dans son tramway quand un passager lui demande, en douce, si elle veut bien fermer les yeux car il n'a pas d'argent pour acheter un ticket. Ce peut être une étudiante, un retraité, un poivreau, un clochard. Tous les jours, on sollicite sa clémence. Si la personne lui paraît sympathique, si la demande est faite poliment et qu'il n'y a pas de contrôleur dans les parages, Elena accepte par principe, puis partage sa bonne action sur Twitter, l'accompagnant d'une photo discrète où l'on voit les jambes, les chaussures, le dos ou le cabas du resquilleur, jamais son visage. Cet homme a oublié son portefeuille à la maison. On le laisse voyager gratis, hein ? Ce matin, un groupe, un peu éméché, ils en rigolent. On n'a pas d'argent. Oui, nous sommes alcoolos, oui, nous avons foutu notre vie là où la bite sait, sans travail, sans femme. On veut bien faire deux stations et sortir sans faire de bruit. Bon, je ne vais pas leur faire la morale, ce n'est pas mon rôle. Hein. S'ils veulent tricher, qu'ils trichent. Ça ne vous dérange pas trop si je fais une station une seule sans payer ? Allez, c'est bon mon pépère, en voiture. Le lundi est une journée dure, très dure. Visez-moi celui-là. Elle joint une photo d'un gros bide affalé dans un t-shirt gris marqué URSS en rouge. Il n'a même pas la force de sortir son portefeuille.
Groard, il fait. Il dort.
Je le laisse dormir. Ne rigolez pas. Un garçon me tend 20 roubles. Le tarif normal est de 30 roubles. C'est juste pour un arrêt, je peux ? J'ai hoché la tête. Vas-y, bonhomme. Il en a fait 3. Je crois que je me suis fait arnaquer, non ? Elle a l'empathie spontanée pour ces miettes de la nation que son tramway rassemble le temps d'un trajet. Elle s'amuse à deviner. Celle-ci est prof de musique. Elle a des partitions dans son sac. Celui-là a mal aux dents. Il descend à la station chaussée des cosmonautes, à la polyclinique, là où officie le dentiste le moins cher de Perm. Les gens le sentent d'ailleurs qu'elle est disponible et serviable. On lui demande spontanément des conseils, un renseignement. Où peut-on acheter des graines pour les oiseaux ? Des pièces de rechange pour un robot de cuisine, un transfo 12 volts. Ne serait-elle pas qui pourrait être intéressée par les vieux vêtements qui restent après le décès d'une mamie ? Entre deux stations, une étudiante lui demande de l'aider à choisir un pull qu'elle a vu sur Internet, une autre déballe des jouets qu'elle va offrir à son neveu. Après avoir discuté avec des Ukrainiens russophones et fait un voyage rituel dans le Donbass, Elena voit son patriotisme piquer du nez. Commence une lente guérison du crime-nachisme qui prendra plusieurs années. Le combat politique ne l'intéresse pas pour autant. Elle se tient éloignée des sympathisants de Navalny dont le discours, centré sur la lutte contre la corruption, lui semble hors sol par rapport aux préoccupations des gens ordinaires. Le montant des retraites, l'accès aux soins, le pouvoir d'achat. Elena se sert de contact tant que les mailles de la censure et de la délation restent molles sur cette plateforme qui collabore depuis longtemps avec les organes de répression. En septembre 2019, devant le resserrement des boulons, elle ouvre un compte Twitter, commence à suivre du coin de l'œil les publications pleines de bonne humeur anti-poutienne sur des comptes parodiques des saltimbanques comme Nuremberg Process, Novanovitchok, Moustache de Peskov, ou d'autres anonymes à l'esprit vif, au verbe enlevé, qui se moque des inepties culturelles et historiques inventées par le Kremlin pour justifier ses rêves de grandeur. Elle dira plus tard, « Si je suis maintenant sortie de la secte des Vatniki, c'est grâce à ce putain de Twitter. C'est lui le fautif de sa race. Je vous aime tous. Sérieux, je ne pige pas comment on peut rester sur Twitter et ne pas devenir plus clairvoyant pour finir par abandonner ses réflexes de Vatnik. Pourquoi ces gens ne changent pas alors que moi si? Qu'ont-ils de moins? C'est simple, Elena. Ils ont perdu la faculté de célébrer la dignité humaine. Contrairement à eux, tu ne t'es pas laissé endurcir par toutes les années de vaches maigres et de violences quotidiennes qui est le lot de tant de Russes, surtout en province. Tu n'as jamais classé les gens en forts et en faibles, avec les forts aux commandes et les faibles soumis, disponibles pour toutes les humiliations. Tu ne te caches pas dans un passé fantasmé, fait d'héroïsme abstrait, agrégat de destins tragiques et d'incommensurables souffrances. Tu as trop à faire dans le présent, ou d'instinct tu cherches des preuves d'humanité dans cet inconnu qui t'achète un ticket. Un patriote dirait de toi que tu es malingre et sotte. Moi, je t'assure que tu es précieuse.
Merci. Merci beaucoup.